Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, nous sommes à l'orée d'un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et qui va tenter cet après-midi une première, vous permettre de vous rincer l'œil en écoutant la radio. Est-ce possible? Peut-on vraiment se rincer l'œil avec ses oreilles? Stéphane Bern, je vous salue et je vous laisse nous présenter notre thème du jour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, de vénérable Vénus. Voilà le point commun de nos trois personnages cet après-midi, trois dames bien différentes. D'abord, la plus célèbre, qui ne nous laisse pas de marbre, et pourtant elle l'était en marbre, la Vénus de Milo. Plus qu'une statue, un chef-d'œuvre dont je vous raconte la vie agitée. Puis celle que l'on surnommait Vénus aussi, mais juste pour se moquer de son imposant postérieur, Sarah Bartman, dite la Vénus hottentote, une femme d'Afrique du Sud exhibée au 19e siècle en Europe comme une bête de foire et disséquée une fois morte aussi, vous verrez. Quant à vous Mathieu, vous évoquerez une Vénus plus vivante, plus proche de nous.
Extrêmement proche même, puisqu'un de ses terrains de jeu favoris, c'est Roland Garros. Je vous poste le portrait à 99% vrai d'une vraie Vénus. Vénus Williams, la célèbre joueuse de tennis au palmarès ébouriffant, presque aussi ébouriffant que le CV de notre historienne de choc, Clémentine Portier-Keltenbach. Clémentine qui n'a pas son pareil pour rendre intelligibles des détails historiques pourtant complexes, comme avant-hier.
Elle aurait été la fille biologique de son mari. Monsieur Récamier a été l'amant de sa mère. Il n'avait pas d'enfant, Monsieur Récamier. Il a épousé Juliette parce qu'il pouvait pas l'adopter. Elle avait un père naturel. Elle avait un vrai père. Bon, donc il l'a épousée pour qu'une fois mort, elle puisse hériter de lui, si vous voulez. Ce qui expliquerait, voilà, pourquoi elle n'a pas jamais couché avec son mari parce qu'il était son père.
Jeu historiquement vôtre de cette fin de saison. Toi aussi, joue à deviner ce qu'a voulu dire Clémentine. Contacte-nous au 3921 pour gagner un mug napoléonien.
Alors là, je suis vraiment confuse parce que c'est vrai que moi, ça me paraît.
Ça vous paraissait clair.
Ça me paraissait assez clair, mais on
l'aurait
vraiment. Je comprends, oui, la confusion de certains auditeurs. C'est vrai que mais c'est compliqué, mais tout ça est parfaitement exact.
Aujourd'hui, on va comprendre de quoi il s'agit.
Non, parce que ça n'est pas de ça dont je vais vous parler, puisque vous êtes dans les Vénus. Vénus est avant tout, évidemment, la déesse de l'amour. Donc moi, je vais vous parler d'une des plus belles histoires d'amour des États-Unis. L'histoire de Mildred et Richard Loving, ça ne s'invente pas, ils s'appelaient Amour tous les deux. Ils avaient 18 et 23 ans et ils s'aimaient et souhaitaient se marier. Mais le problème, c'est qu'ils vivaient à la fin des années 50 en Virginie, en pleine Amérique ségrégationniste, qu'il était blanc et qu'elle était noire. Donc ça a été une histoire très compliquée, très emblématique. Mais je vous réexpliquerai si vous n'avez pas tout suivi.
Avec nous également David Castello-Lopez et ses inventions, l'histoire des choses de notre vie quotidienne. Et là, en l'occurrence,
c'est le code barre.
Bah oui, d'où ça vient?
Mais oui, ce truc qui fait. Vous savez,
j'adore. Moi, j'ai pas automatique.
Et puis avec Olivier Pouls, c'est bien. On reviendra sur une chose. Parce qu'on parle de Vénus.
Oui.
Le bras de Vénus. Vous connaissez.
Qu'est-ce que ça vous inspire, le bras de Vénus, comme ça, Stéphane?
Justement,
ça ne vous inspire rien de culinaire. J'ai l'impression que ça vous évoque autre chose, mais j'ai peur de le savoir.
Non, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'en cuisine.
Non, mais j'ai décidé de coller totalement au thème, et le bras de Vénus, c'est une pâtisserie, figurez-vous. Originaire des Pyrénées. Je vous raconterai son histoire. Je vous donnerai la recette pour cette pâtisserie.
D'ailleurs, le monde Vénus, en chiromancie, ça indique la sensualité.
C'est-à-dire que ça indique aussi tout simplement le nom. Le monde Vénus, c'est la.
Le monde Vénus. C'est effectivement ce à quoi nous pensons tous sans pouvoir le dire.
La foufoune, quoi.
Oui, là, merci Olivier. Heureusement qu'on a un belge
formulateur de sous-entendus.
Il parle clair au micro d'Europe 1, c'est Olivier Pouls.
Des fois que certaines personnes n'auraient pas compris.
Vous avez bien raison. Enfin, nous jouerons évidemment, les amis, à Burn to be Alive, ce quiz d'histoire malicieux auquel participent avec, je dois dire, une certaine désinvolture Stéphane et Clémentine. Il faut dire qu'il n'y a rien à gagner à part mon admiration.
Et si vous essayez d'offrir un gigot?
Vous avez raison Olivier, ça marcherait peut-être mieux que mon admiration. Bref, ça sera vers 5h-10, mais tout de suite, partons à la rencontre de notre première Vénus de l'histoire, probablement la plus célèbre, la Vénus de Milo.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
En ce mois d'avril 1820, voguons ensemble sur la mer Égée, dans l'archipel des Cyclades, cap sur l'île de Milo, à l'époque, alors sous domination ottomane. Nous ne sommes pas seuls. Une goélette de la flotte française est à l'ancre dans la baie. Un élève de marine de 24 ans, Olivier Voutier, se promène sur l'île. Délaissant un temps sa mission de protéger les intérêts commerciaux de la France, il se lance dans une chasse au trésor. Il se passionne pour une science nouvelle, l'archéologie. Non loin du théâtre antique, Voutier entend des coups de pioche. Un paysan grec, qui répond au nom de Yorgos Kentrotas, remue le sol à la recherche de pierres pour bâtir un mur. C'est alors qu'il fait une incroyable découverte dans les décombres. Une statue de femme. Il lui manque les bras, le pied gauche, un bout du nez et la lèvre supérieure. Nue jusqu'aux hanches, un drapé couvre ses jambes. Subjugué, Voutier sort alors son carnet de croquis et dessine la trouvaille. Il en est sûr. C'est Vénus, la déesse de la beauté. Le bouche à oreille va bon train. Le vicomte Marcellus sait que son patron, le marquis de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople, veut impressionner le roi de France, Louis XVIII. Quoi de mieux qu'une statue grecque? Mais il n'est pas le seul à avoir cette idée de cadeau. Lorsqu'il arrive sur l'île de Milo, la statue est déjà en train d'être chargée dans une chaloupe en vue de rejoindre les cales d'un navire ottoman. Le prêtre, Oikonomos, soupçonné de détournement de fonds, est en disgrâce auprès du drogman, le chef de l'arsenal de Constantinople. Pour se racheter, il compte bien lui livrer la statue. Heureusement pour Marcellus, le vent tourne en sa faveur. La météo empêche Oikonomos de mettre les voiles. Avec de solides arguments, parmi lesquels la participation d'un Français à la découverte et le soutien de la France en cas d'attaque de l'Empire ottoman, le vicomte parvient à convaincre le Conseil des sages de l'île de Milo. Après un long voyage et de multiples escales, la Vénus de Milo arrive à Paris. Le marquis de Rivière l'offre au roi dans son palais des Tuileries, le 1er mars 1821. La statue est ensuite accueillie à bras ouverts au musée du Louvre par Auguste de Forbin, directeur des musées de France. Son arrivée tombe à pic. 6 ans plus tôt, quand Napoléon Ier a abdiqué, la France a dû rendre les chefs-d'œuvre saisis en Allemagne et en Italie. Vidé de ses œuvres, le Louvre a perdu ses antiques, le Laocoon, la Vénus de Médicis et l'Apollon Belvédère. Une perte considérable pour la capitale des Beaux-Arts, surtout que les antiques sont remises à la mode par le père de l'histoire de l'art, Johann Winckelmann. L'arrivée providentielle d'une Vénus de l'âge d'or classique pourrait concurrencer les marbres du British Museum ou du Vatican. Au XIXe siècle, les musées deviennent un enjeu de compétition et une démonstration de puissance. Un état de premier plan se doit d'avoir un musée de renommée mondiale. La Vénus de Milo a bien mérité qu'on lui refasse une beauté. Son marbre blanc de Paros retrouve tout son éclat. Depuis le XVIIe siècle...
Votre villa aussi, elle est en marbre blanc de Paros, Stéphane?
Non. Non, vous savez, le marbre était réservé pour les statues antiques.
Bien sûr.
Notre pauvre maison...
Nos bicoques
sont en torchis.
En torchis, oui, on va dire ça.
Depuis le XVIIe siècle, la tradition veut qu'on restaure intégralement les œuvres. Et la question est, va-t-on lui ajouter des bras? Les conservateurs, quant à eux, s'arrachent les cheveux pour répondre à la question. Son identité n'étant pas encore vérifiée, malgré la conviction de Voutier, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui mettre entre les mains? Un trident, si c'est une amphitrite? Un arc, si c'est Artémis? Une amphore, si c'est Danaïde? Une lyre, si c'est une muse? Une pomme, un miroir, une colombe, une couronne, si c'est bien Vénus? Pas tout ça en même temps, évidemment. Pour éviter de se tromper, la décision est prise de la laisser sans bras. La belle a toutefois droit à quelques ajouts. Un nez, un pied gauche et le gros orteil du pied droit. Grâce à d'autres trouvailles, à l'endroit de la découverte, les statues d'Hermès et d'Hercule, ainsi qu'une pomme taillée dans la même pierre, les experts confirment qu'il s'agit bien d'une Vénus. Trous et parties métalliques sur sa peau diaphane permettent d'affirmer que la belle était parée de bijoux. Boucles d'oreilles, bracelets et diadèmes. A-t-elle toujours eu grise mine? Rien ne permet de l'affirmer, mais sa chevelure pourrait être colorée en doré et ses lèvres peintes en rouge. La Vénus de Milo est exposée au Louvre à partir de mai 1821. Le public est conquis. Artistes et collectionneurs défilent pour l'admirer, la croquer ou lui dédier un poème. Rodin, Rilke, Cézanne, Delacroix, ne s'inspirent-ils pas du drapé de la Vénus pour sa Marianne guidant le peuple? Marbre sacré, vêtu de force et de génie, déesse irrésistible au port victorieux, pure comme un éclair et comme une harmonie, ô Vénus, ô beauté, blanche mère des dieux, écrit le comte de Lille dans ses poèmes antiques. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, s'extasie encore Mérimée. Ô Vénus, quel âge as-tu ? Lors de l'expertise, Forbin l'attribuait à un classique, peut-être Phidias ou Praxitèle. Après moult tergiversations, son âge est établi au XXe siècle. Constituée de deux blocs indépendants, de la tête jusqu'aux hanches et des hanches jusqu'aux pieds, elle est soit une copie d'un original grec disparu, soit une statue librement inspirée à la manière des maîtres anciens. La Vénus de Milo date donc de l'époque hellénistique, celle qui suit l'époque classique et les conquêtes d'Alexandre le Grand. Si on sait désormais qui elle est, vous allez voir que la Vénus de Milo a connu son parcours mouvementé. C'est vrai que la Vénus de Milo est exposée au rez-de-chaussée du musée du Louvre. Il est difficile de trouver une place à cette statue qui, du haut de ses 2 mètres, est lourde de 950 kilos, fait de l'ombre à ses voisins. On la déplace à droite, à gauche. En 1870, la guerre l'emmène hors des murs du Louvre. Le directeur du musée a la bonne idée d'évacuer la Vénus vers la préfecture de la Seine. On la démonte pour l'occasion et elle bénéficie alors d'une seconde restauration. En 1914, la Première Guerre mondiale approche. Que faire ? La déplacer, c'est courir un risque certain, alors que les bombardements et les incendies sont hypothétiques. La décision est finalement prise de l'évacuer vers Toulouse. Quand la Vénus rentre de son séjour dans la ville rose après la guerre, les visiteurs du Louvre se demandent si c'est un faux. Les Allemands ont tout pillé, c'est sûr. Mais non, c'est bien la véritable Vénus de Milo que les dirigeants peuvent admirer lors de la conférence de paix qui se tient à Paris. Branle-bas de combat encore en 1939. La Seconde Guerre mondiale approche. Il faut mettre les œuvres du Louvre à l'abri. Le futur directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, fait des pieds et des mains pour sauver le patrimoine artistique de la France. Prisonnière des circonstances, la Vénus de Milo est encordée, déplacée en lieu sûr au château de Valençay, dans le Berry, où elle reste jusqu'à la fin du conflit. Mission réussie. Le seul voyage long courrier qu'effectue la Vénus de Milo l'emmène au Japon, à Tokyo puis à Kyoto, en 1964. Contre l'avis des conservateurs, le ministre de la Culture, André Malraux, veut qu'elle accompagne la visite du Premier ministre Georges Pompidou. Le trajet en bateau d'un mois secoue la belle qui arrive accidentée sur le port de Yokohama. En urgence, les marbriers du Louvre la rejoignent pour une restauration express. Près de 100 000 Japonais ont ensuite la chance de l'admirer. Mais l'expérience ne sera jamais renouvelée. Depuis son séjour nippon, la Vénus de Milo n'a plus jamais quitté le Louvre. Mais elle voyage dans l'imaginaire grâce à l'excentricité des artistes, à l'instar de Dali qui inverse son nez, son oreille gauche, ou de Niki de Saint-Phal qui, vêtu d'un costume napoléonien, fait une série de tirs de peinture rouge et noire sur un moulage de la statue. Dans Le Dictateur de Charlie Chaplin en 1940, la Vénus fait carrément un salut nazi. On la préfère sans bras, parce qu'avec des bras, la Vénus de Milo aurait forcément suscité beaucoup moins d'engouement. Oui, c'est bien son mystère qui a créé son mythe.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la mystérieuse Vénus de Milo, nous sommes avec la journaliste Candice Nedelec qui redonne vie à cette statue star. Bonjour Candice.
Bonjour.
Bonjour Candice Nedelec. Vous êtes chef de service politique au magazine Gala. Vous êtes donc l'auteur du roman vrai de la Vénus de Milo qui vient de paraître chez Fayard. La vie de la Vénus de Milo est tellement riche et tellement pleine de rebondissements qu'il n'y a même pas besoin de la romancer. C'est ce que vous suggérez finalement avec ce titre.
Absolument. Quand j'ai commencé mon enquête, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un véritable personnage de roman. Et que j'étais en train d'écrire un roman d'aventure, parce que vous avez évoqué là quelques épisodes rapides que je détaille complètement dans mon livre, mais lorsqu'elle a été cachée des Allemands par exemple en 1870 dans le plus grand secret par les conservateurs du Louvre dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris, ensuite il y a eu la Commune de Paris et les communards ignoraient où elle était mise à l'abri, et il y a eu les incendies qu'on connaît qui ont ravagé Paris, et elle a failli périr par les flammes parce qu'un incendie s'est déclenché non loin de la préfecture de police de Paris, et elle a dû son salut à l'explosion d'une canalisation d'eau qui l'a sauvée. Voilà, j'ai découvert tout ce genre de choses et tout est vrai parce que je me suis associée à Ludovic Laugier, qui est conservateur au Louvre, spécialiste des antiquités grecques et romaines, et qui donc a pointé évidemment toutes les exactitudes du récit, et tout est vrai, mais en même temps on a l'impression vraiment d'être plongé dans l'histoire, parce que l'histoire de la Vénus de Milo, c'est aussi l'histoire de la France, du Louvre. Et en effet, il y a eu ces deux exodes pendant les guerres, le voyage au Japon, il y a eu toutes ces choses-là. Et puis, elle traverse aussi l'histoire de la littérature. Elle fait partie du romantisme français, du philhellénisme qui a agité le 19e siècle.
Cette année pour le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce.
Exactement. Et donc des personnages comme Mérimée, comme Hugo, comme Théophile Gautier ont écrit des pages très belles sur la Vénus de Milo.
Mais en même temps, elle n'a pas de bras. Elle n'a pas de pied gauche. Elle a le nez et la lèvre cassée. On a du mal à comprendre comment le jeune Voutier a pu être subjugué au premier regard. Elle ne correspond pas au canon de beauté de l'époque, si, ou comment expliquer son magnétisme?
Alors, il a eu une vista, hein, comme on dit aujourd'hui, ça c'est sûr, mais en même temps, elle était très très belle. Elle avait ce torse incroyable, elle avait ce drapé qui était certes un peu abîmé, mais elle était colossale, 2 mètres hein, quand même, même si on l'a trouvé en 2 morceaux, c'était... Et donc, il a fait ce pari-là, et il n'est pas le seul, puisque les Ottomans ont aussi voulu mettre la main dessus, et donc les Français ont été très bien inspirés de payer très vite, d'acheter aux Grecs la Vénus de Milo, et elle est devenue aussi ce mythe parce qu'elle s'est retrouvée dans ce Paris du 19e effervescent intellectuellement et qu'elle a inspiré les plus grands.
Alors, on l'a dit, c'est surtout l'absence de bras de la Vénus de Milo qui fait débat. On a pu entendre qu'elle en était dotée au moment où elle a été déterrée. D'ailleurs, elle a échappé de peu à une greffe de bras au cours de ses restaurations. Pourquoi ça s'est pas fait finalement? Parce que c'était jugé... pas à la hauteur du reste de la statue?
Oui, parce que les essais qui ont été faits avec le bras qui avait été retrouvé à l'époque avec elle lorsqu'elle est arrivée à Paris au Louvre n'étaient pas concluants, et c'est pour cela qu'on a décidé, ce qui était une première en France, de présenter une statue non restaurée dans un musée. C'était assez audacieux, c'était un peu par défaut parce que les essais qui avaient été faits par les conservateurs n'étaient pas concluants, et le comte de Forbin, directeur du Louvre, a pris cette décision, et c'est ce qu'il a fait aussi entrer dans l'histoire parce que son côté fragmentaire a inspiré beaucoup Rodin, Dali, Dali et les autres.
Il y a même, je crois qu'il y a une publicité dans les années 80 où on la mettait avec des bras et même elle avait la parole, ce qui était encore pire, je trouve.
Alors c'est même au début du 20e siècle, Michelin, pour un exercice de gymnastique, lui fait dire quand j'avais des bras, j'utilisais l'exerciceur Michelin pour faire mes exercices de sport. Mais il est étonnant, elle a été tellement détournée dans des publicités, il est étonnant qu'aucun chocolatier ne nous ait encore fait le coup du pas de bras, pas de chocolat, parce qu'elle a eu droit à tout quand même, la Vénus de Milo. Elle a eu droit à Darty, quand je vois les prix Darty, les bras m'en tombent. Elle a eu droit, elle a été détournée dans des publicités pour de la bière, pour de l'eau minérale, et donc voilà. Donc ça, bon, évidemment, ça participe du mythe, mais moi je préfère quand on la détourne de manière artistique, et ça a commencé très très tôt. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, il y avait le salon des incohérents qui pastichait un peu le salon très officiel du Louvre des peintres, voilà, officiel. La Vénus de Milo a fait l'objet d'un premier tournement, c'était la Vénus de 1000 O, 1000 le chiffre et O-E-A-U-X, et on l'avait recouverte d'étiquettes d'eau minérale. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, évidemment, Dali et son camarade Duchamp l'ont infligé de tiroir, et puis Nikita Saint-Phalle, et puis les autres, et puis des Américains à la fin du 20e siècle, Jim Dine l'a décapité, enfin voilà, on lui a fait un peu tout subir à la Vénus de Milo. Alors évidemment, ça alimente le mythe, et aujourd'hui, c'est avec la Joconde, évidemment, c'est l'œuvre la plus regardée au Louvre. Il y a, en temps normal, il y a 8 millions de personnes qui viennent quand même se prosterner devant la Vénus de Milo.
Il y a eu aussi des visées humanitaires à une époque pour la Vénus de Milo, c'est pas seulement commercial ou mercantile.
Oui. C'est Handicap International en 2018 qui avait affublé une Vénus de Milo qui est dans les couloirs du métro à la station Louvre-Rivoli, et pour voilà, montrer un peu qu'est-ce que c'était que les appareils qui aidaient les personnes handicapées, on l'avait appareillé en fait pour l'occasion.
Et puis, je le rappelais, elle est devenue un personnage de fiction. J'ai parlé de son salut nazi dans Le Dictateur de Charlie Chaplin. Il y a d'autres exemples comme ça?
Oui, ça a commencé tôt. Je crois que c'est 1954, un Tex Avery, où elle apparaît aux côtés du loup lubrique et de Droopy. Elle a été présente dans un épisode de Twin Peaks. Elle est là même chez les Simpsons. C'est un petit bonbon, la Minus de vélo. Voilà, elle est présente dans l'inconscient collectif. Et ce qui était intéressant, je parlais tout à l'heure de la pub Darty. La pub Darty, elle était aux côtés de personnages ayant existé, de grands savants, puisqu'il y avait eu Galilée qui avait été détourné par une autre pub Darty à la même époque, et Pasteur. Donc voilà, elle est presque vivante finalement, cette Vénus de Milo. Elle ne laisse personne de marbre.
Aujourd'hui, elle est dans tous les esprits. Est-ce que, pour les grands spécialistes, c'est un chef-d'œuvre absolu ou c'est aussi sa taille qui fait qu'elle est devenue si célèbre ou son histoire mouvementée ou d'un point de vue purement esthétique pour les amoureux d'art antique, c'est vraiment un chef-d'œuvre ultime?
Elle est très belle, elle est très imposante, mais il est vrai que il y a eu un emballement autour d'elle qui est un petit peu disproportionné. En même temps, au fil de mon enquête pour ce livre, j'ai découvert qu'en effet, elle avait tellement inspiré les plus grands qu'il y avait forcément quelque chose. Rodin dit elle est comme pétrie sous les caresses et les baisers. Et puis il s'est inspiré d'elle pour sa méditation qu'il avait travaillé avec son grand amour Camille Claudel. Donc voilà, quand on est une source d'inspiration pour des gens comme Delacroix, Rodin, enfin bon, ça veut dire quand même quelque chose, c'est qu'il y a une bonne base.
Mais il y a d'autres statues grecques, je rebondis sur ce que disait Mathieu, il y a d'autres statues grecques par exemple qu'on voit au Louvre-Lens, notamment en marbre aussi de Paros, qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus impressionnantes, et pour autant on se dit que ce sont ses bras et c'est son aventure, ce roman vrai qui a fait d'elle la star.
Oui, et puis elle était un enjeu entre les puissances européennes dès le 19e siècle, le Louvre avait été vidé de ses œuvres et après le congrès de Vienne et la déroute de Napoléon et du coup c'était une authentique statue grecque, alors qu'il y avait plutôt des copies romaines de statues grecques à l'époque, et donc c'était un enjeu entre les grandes puissances, et c'est pour ça qu'on l'a dissimulé aux Allemands à trois reprises dans l'histoire, et donc c'est devenu un symbole, cette rumeur qui a eu cours après la Première Guerre mondiale en pensant que les Allemands ne nous l'avaient pas rendu, que c'était une copie, ça prouve bien qu'elle était devenue le symbole de l'art à la française. Version grecque.
Oui, c'est ça. On avait très envie de la montrer aux Japonais, mais c'est quand même pas une sculpture française, c'est tout bizarre.
Non, absolument, oui, c'est très étonnant.
Faire tout ça
cas,
pour
voilà,
le mener
là-bas. Ça s'est passé en 1821, deux siècles
on
plus
en
tard,
parle
on en parle encore, et c'est vrai que c'est très lié à l'histoire de l'indépendance de la Grèce.
Il y a même une rumeur qui dit que les bras sont chez vous, à Paros, dans votre villa, que c'est vous qui les avez. Rendez-les, Stéphane.
Depuis, je continue de creuser. Alors, merci en tout cas, Candice Nedelec. Je rappelle le titre de votre livre, Le roman vrai de la Vénus de Milo, qui vient de paraître chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter.
Jamais.
Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire d'amour d'un couple qui n'avait malheureusement pas le droit de s'aimer.
Absolument, Richard Loving et Mildred Dolores Jeter. Ils sont tous les deux nés dans une petite bourgade rurale de Virginie, Central Point. Lui, il est 1933, elle de 1939, et ils se sont connus alors qu'ils étaient encore au lycée, ils sont tombés amoureux. Ça se passe en 58, donc elle a 18 ans, lui 23, et elle se retrouve enceinte. Mais comme c'est un honnête homme et qu'il l'aime, il veut l'épouser. Problème, elle est noire, il est blanc, et dans la Virginie de la fin des années 50, des lois anti-métissage interdisent les mariages interraciaux. Alors que faire ? Ben, ils se rendent à 150 km au nord de chez eux, à Washington, parce que là, leur union sera légale. Donc ils vont là-bas se marier, la chose est assez vite expédiée. Et puis ils rentrent chez eux, la conscience tout à fait tranquille, et ils épinglent leur certificat de mariage au mur de leur home sweet home, tout va bien. Mais alors qu'ils ne sont mariés que depuis quelques semaines, le 12 juillet 58, à 2h du matin, le shérif de Central Point débarque dans leur chambre à coucher. Il a reçu des dénonciations anonymes selon lesquelles les Loving violeraient la loi. Et donc, ils sont arrêtés tous les deux pour cohabitation illégale.
Incroyable.
Et lui, il est blanc, donc il va passer une nuit en prison et il est libéré contre une caution de $1000
quand même.
Mais son épouse, qui est enceinte, passe 5 nuits en prison pour s'être mariée illégalement en dehors de la Virginie. Alors, devant le juge local, un certain Basile, le couple va plaider coupable de violation de la loi locale, et la sanction tombe. Pour éviter la peine d'un an de prison dont ce crime est passible, ils doivent quitter immédiatement l'État, avec interdiction absolue d'y revenir ensemble pendant 25 ans. C'est comme si vous aviez, enfin, je sais pas, vous avez plus le droit d'aller dans votre région de vacances avec votre épouse. Non, faut y aller séparément. Bon. Alors, du coup, les malheureux, ils déménagent à Washington. Ils ont 3 enfants. Ils habitent là-bas pendant 5 ans. Et séparément, ils viennent rendre visite à leur famille en Virginie. Mais ils se font pas du tout à cette vie. Ils étaient habitués à une vie dans une petite bourgade américaine un peu campagnarde. Ils sont pas du tout heureux à Washington. Leurs proches leur manquent, naturellement. Alors, quand en 64, ils sont à nouveau arrêtés, parce qu'ils sont allés ensemble, les malheureux, rendre visite à la mère de Mildred. Alors là, cette fois, c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Mildred trouve l'énergie, le courage d'écrire à Robert Kennedy, qui est alors procureur général des États-Unis, et elle dénonce une situation de violation de ses droits fils et civiques. C'est invraisemblable, je ne peux pas me marier avec l'homme que j'aime dans l'État où je vis, où je suis née. Et Kennedy l'oriente vers l'Union des libertés civiques, qui saisit l'affaire et porte plainte en son nom. Alors au début, les Loving ont refusé toute publicité. Ils ont dit, nous on veut juste pouvoir s'aimer tranquille et vivre, on est mariés, on s'est mariés.
Mais bon. Il devait y avoir d'autres gens dans ce cas-là, donc ça pouvait servir tout.
Alors à l'époque, c'est surtout leur affaire qui a fait du bruit, il y avait peut-être d'autres personnes, mais enfin, il faut quand même, dans les années 50, un blanc qui épouse une noire, c'est quand même pas si fréquent. En 65, à la demande de leur avocat, ils acceptent que soit publié un long portrait d'eux dans Life magazine, et un article publié sous le titre « The Crime of Being Married », enfin le crime d'être marié. L'affaire devient
alors... Votre anglais n'est pas meilleur que le mien, et ça m'encourage.
The crime to be, of being, c'est peut-être sur married que j'ai un peu une difficulté.
The
crime of being married. Moi, c'est pas
on
si mal.
On l'appelle Lopez.
Hein? Non mais oh. Bon, alors bref, en janvier 65, le juge là, qui a pris la décision de les foutre dehors, le tout puissant a créé les races blanches, noires, jaunes et rouges, et les a réparties par continent. Et si l'on ne vient pas perturber son ordonnancement, il n'y a aucune raison pour que ce type de mariage existe.
Exactement, les rouges, il les a créés par le continent, aux États-Unis. Et qu'est-ce qui et lui, et il voilà. est blanc. Il est aux États-Unis, il a donc contrarié les plans
attendez.
Du Seigneur.
Mais bien sûr, nous dit le juge Basile, si Dieu a séparé les races, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention qu'elles se mélangent. Alors bon, voilà, c'est l'affaire Loving contre l'État de Virginie termine devant la Cour suprême pour une audience le 10 avril 67. Loving a juste dit à ses avocats, dites au juge que j'aime ma femme et qu'il est injuste que je ne puisse pas vivre avec elle en Virginie. Et le 12 juin suivant, la Cour suprême statue unanimement en faveur du couple Loving, abroge la loi de Virginie en la déclarant anticonstitutionnelle et donc autorise le couple à retourner chez lui et invalide toute loi qui apporterait des restrictions au droit de mariage en se fondant sur la race des époux. Quand cette décision Loving est rendue, des lois équivalentes étaient encore en vigueur dans 16 États des États-Unis. L'Alabama était le dernier État à lever une telle interdiction de sa constitution en 2000. Même si la loi n'était plus appliquée depuis quelques années. En 62, quand Barack Obama est né, fils d'un père africain et d'une mère blanche américaine, le mariage de ses parents aurait été illégal, non seulement en Virginie, mais dans près d'un tiers des États américains. Ouais. Reste dans les archives de la justice américaine cet inoubliable arrêt de la Cour suprême figurant sous l'intitulé « Loving versus Virginia », ce qui en français signifie « l'amour contre l'État de Virginie ». C'est pas beau, ça fait l'objet d'un magnifique film de Jeff Nichols en 2016. Et cette histoire, ça paraît très, très antédiluvien aussi, mais oui. L'avocat Bernard Cohen, l'avocat de Mildred et son mari, est mort le 12 octobre dernier. Il avait 86 ans. C'est pas si vieux tout ça.
Moi, au début, quand vous disiez les années 50, 60, je pensais qu'on était au 19e siècle, en fait. Je pensais qu'on était en 1800 et quelques.
Ah non.
Et tout à coup, vous avez parlé de Robert Kennedy, et là, j'ai pris conscience de l'impensable.
Non, je dis, Richard, Barack Obama, à l'époque, ses parents n'auraient pas se marier.
C'est fou. Mais merci beaucoup, Clémentine.
Merci, Clémentine. Vous restez avec nous. D'amour, il sera peu question dans la séquence qui suit, puisque vous allez vous entretuer.
Mais c'est l'amour vache.
C'est la guerre.
C'est l'amour vache. C'est le quiz. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Clémentine Portier-Keltenbach est restée avec nous pour l'épreuve du quiz. Clémentine, dont le cerveau n'est pas sans rappeler la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, en moins bien rangée. On l'a vu avec le triste épisode dit du mari de Madame Récamier qui était son père, ou l'inverse, on ne sait plus. Tâchez, Clémentine, de mettre un peu d'ordre dans vos souvenirs d'histoire. Jouons ensemble à Bern to be alive. Stéphane, première question. Vous groovez de plus en plus sur cette musique. Hein. C'est une très belle version de Born to be Alive. Effectivement, une version fichier MIDI, comme on l'appelle. On a déjà évoqué ici, Stéphane, Le coucher de la mariée, considéré comme le premier film érotique de l'histoire du cinéma, qui était sorti en 1896. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le producteur de ce film est Eugène Pirou, un photographe connu pour avoir immortalisé les événements de la Commune. Vrai ou faux ?
Comment voulez-vous que je le sache ?
Mais je ne sais pas, vous êtes censé connaître un peu l'histoire.
Moi, je pense que c'est vrai.
Oui, moi aussi, mais parce que ça serait très étrange.
Ça serait vraiment étrange.
Oui, oui.
Ça aurait pu être Nadar, ça aurait pu... Oui. Enfin,
Non, Nadar n'a pas fait...
Il n'a pas fait de cinéma de la commune. Il est mort
non
avant plus.
Non, mais il s'intéressait plutôt à la bonne société. Et donc, il a photographié les grands personnages. Eugène Pirou, écoutez son nom.
Ah, bien sûr, mais Eugène, enfin Stéphane.
Eugène
Pirou.
Vous avez...
Bien c'est sûr. Une bonne réponse, Stéphane. Ouais. Décidément, vous connaissez tout de l'histoire de France. Eugène Pirou.
Vous-même, vous l'aviez. Avant d'entrer dans ce studio, vous n'aviez même pas idée de qui était Eugène Pirou.
Bien évidemment, j'avais assisté à une exposition où on voyait des clichés de la Commune, par Eugène Pirou, bien sûr. En plus, vous savez que j'ai une très bonne mémoire. Donc, je ne l'aurais pas oublié facilement. Eugène Pirou, c'est le photographe de la Belle Époque. Sollicité par la Commune, il va immortaliser de nombreux gardes nationaux tués au combat. Il fera également le portrait officiel d'Émile Loubet et produira donc Le coucher de la mariée, où la future épouse fait un striptease, où elle finit en maillot de corps. Du film, on n'a plus que les deux premières minutes. On imagine que dans les cinq dernières, l'actrice Louise Willy finit en nu intégrale, mais
petit
on ne peut que
canaillou,
le supposer.
Eugène Pirou.
Oh oui. Question numéro 2 pour vous, Clémence. Saint-Pétersbourg, Petrograd, Leningrad, c'est une seule et même ville qui, au cours de l'histoire, a changé moult fois de nom. Quand, en 1978, Boney M. sort Rasputin... Comment s'appelle la ville ?
En 70 ?
En 78, hein.
En 78.
Elle s'appelle Leningrad.
C'est Leningrad à l'époque, c'est pas encore, c'était pas Petrograd.
Ou Saint-Pétersbourg, on
la
connaît aujourd'hui.
Non, c'était pas déjà Saint-Pétersbourg, non.
Sous la perestroïka.
Oui, c'est bien plus tard, oui, tout à fait.
Petrograd, c'est pendant la guerre de 14.
Donc c'est encore Leningrad.
C'est Leningrad, donc Stéphane, vous avez répondu à la question.
Ah pardon.
Vous venez donc...
Vous avez...
d'offrir un point.
Oui.
Bien joué.
Moi, je le savais.
Vous le saviez, mais c'est quand même Stéphane qui l'a dit en premier.
Mais parce que je veux aider ma copine.
Bah, bien sûr, c'est
mais
gentil.
Donc, toujours pas compris, à ce stade de la saison, le concept de compétition.
Mais j'étais en Russie à l'époque de la perestroïka et j'étais à Leningrad qui n'était pas encore...
Donc, vous le saviez.
Est-ce que vous savez, cher Mathieu Noël, que... Non seulement Saint-Pétersbourg a retrouvé son nom, mais tous les autres.
Bien sûr.
C'est-à-dire que autour.
Et que l'URSS est devenu la Russie, vous saviez ça aussi.
On a rebaptisé. Parce que, par exemple, Ekaterinbourg ne s'appelait pas Ekaterinbourg. Il y avait, par exemple, Lomonosov est redevenu Orianenbaum. Enfin,
on a désoviétisé.
On a retrouvé les noms allemands qui préexistaient, parce qu'on avait. Tout russifié pendant la guerre de 14.
Il y a eu quand même cet événement incroyable du retour des restes à Saint-Pétersbourg. Vous y étiez.
Bah oui.
Tu y étais, vous y étiez.
Parce que c'est l'émotion, les obsèques, incroyable.
On ne veut pas vous laisser de côté.
On réalise que vous vous connaissez sacrément dans la vie. Hein. Et bien effectivement, c'était Leningrad. À travers son histoire, la ville a connu 14 appellations différentes. La chanson de Boney M est sortie en 78. C'était Leningrad depuis 1924 et c'est Saint-Pétersbourg depuis 1991. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, c'est le naufrage du Titanic. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de questions sur le Titanic.
C'est vrai, oui, ça nous manquait.
Dans quel film on voit le plus de décès ? Titanic ou Rambo ?
Oh là 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 là.
Des décès qu'on voit à l'écran.
Ah oui. Ah bon.
Ah oui.
Il n'y a pas tellement de morts dans Rambo.
Non, moi j'allais dire le contraire, il n'y a pas tellement de morts dans Titanic.
Vous avez souvent vu Rambo ?
Non.
Ah bah oui, moi demandez-moi, j'ai même vu la dernière version là. C'est incroyablement mauvais.
Ah c'est mauvais, oui. Mais le premier Rambo est peut-être un peu meilleur.
Oui, très bon, excellent.
Alors combien de morts ?
Moi je pense qu'il y a plus de morts dans Rambo. Parce que dans Titanic...
À mon avis, dans Titanic, ils n'ont pas voulu effrayer les gens. Et donc...
C'est pas la croisière s'amuse, hein, c'est Titanic, il y a des morts.
Oui, mais vous nous dites des morts à l'écran.
On les voit pas. On voit des gens qui disent « Ah, au secours, je me noie !»
Vous auriez été bon dans Titanic. Vous auriez été bon à la place de Jack. Tenant la main.
Vous avez envie, Mathieu Noël, que je dise Rambo. Donc c'est dans Rambo qu'on voit le plus...
Moi, je pense que c'est dans Rambo, c'est ce que j'aurais répondu.
Mais je n'ai aucune envie. Je suis un juge neutre.
Oh, juge.
Et je distribue les points.
Vous êtes un procureur.
Je suis suisse, moi, monsieur.
Pas du tout.
Alors, Rambo.
Vous avez...
perdu.
Vous avez perdu. James Cameron n'a pas tenté de nous ménager quand il a réalisé Titanic, Stéphane. Titanic où l'on dénombre 307 décès à l'écran, alors que dans Rambo, sorti en 82, il y a un mort. Et 236 morts dans Rambo 4, pourtant, celui dont vous parliez, je
pense. Ah, c'est ça, c'est peut-être celui-là qui m'a marqué.
Effectivement.
Parce qu'il sulfate à tour de bras dans le dernier, c'est une hécatombe.
Donc pour Stéphane, il faut bien préciser que pour Stéphane, les gens qui tombent dans l'eau depuis 100 mètres du haut du Titanic quand il est relais, ils ne décèdent pas, ils vont juste prendre un bain.
Ils peuvent être pêchés.
Oui, bien sûr, ils peuvent être pêchés. Puis à la fin, quand ils sont tous glacés, qu'ils sont tous bleus dans l'eau comme ça, quand les barques reviennent, ils sont en train de ils font de la phytothérapie.
Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Dans Rambo 1, il n'y a qu'un mort.
Oui, c'est pour ça que ça s'appelle
Qui allait
question,
compter
c'est...
le nombre de morts dans Titanic.
Ah bah vous savez, les fans de Titanic, moi je l'ai vu 6 fois en salle au cinéma à l'époque.
Vous n'avez pas compris la première fois ?
J'avais pas compris, c'est surtout qu'à chaque fois j'avais une fille différente. C'est une autre histoire. Question numéro 4, Clémentine Portier-Kaltenbach. Francis Galton est le cousin de Charles Darwin. Il a inventé le réveil matin réglable. Celui que vous pouvez faire sonner à l'heure de votre choix avec une sonnette particulièrement agréable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Le cousin de Charles Darwin serait l'inventeur du réveil matin.
Donc le réveil matin aurait été inventé dans les années 1870, quelque chose comme ça, puisque l'origine des espèces, c'est quoi, de 1869, et donc le réveil matin daterait de 1870. Non, je la sens pas, votre histoire de...
Non, vous n'y croyez pas. Non.
Vous avez...
Effectivement, vous avez raison de ne pas y croire, c'est faux. En revanche, Charles Darwin a eu un cousin qui s'appelle bien Francis Galton et qui a inventé quelque chose. Il a inventé l'identification des individus par empreinte digitale.
Mais non, c'est pas Bertillon, ça ?
Mais non, c'est un Américain, c'est toujours un Américain. Francis Galton était anthropologue, il est également considéré comme le père de l'eugénisme. C'est moins bien. C'est lui qui a inspiré la stérilisation massive des individus déviants, comme notamment les alcooliques, les schizophrènes et les animateurs de radio. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui rend... Ah non, on me signale en régie que non. Un changement, une modification de dernière minute de notre règlement vient d'être modifié par notre huissier en régie.
Ça le reprend.
Qui me signale que non, les compteurs sont exceptionnellement remis à zéro. Et nous allons insister à la question numéro 5, celle que vous attendez toute, la question de rapidité qui va départager nos deux champions. Dans les années 40, un groupe de gospel américain a son petit succès. C'est les Jubalaires. Ce groupe est particulier. Pourquoi ? Trois propositions. Il est considéré pour avoir fait du rap pour la première fois. Il était non mixte, composé exclusivement de femmes, ce qui était rare pour du gospel. Ou il était sponsorisé par une marque de chocolat, et forcément aujourd'hui, ça ferait grincer des dents.
Trois.
La deux, moi.
Nous sommes face à un cas d'égalité dans la nullité. C'est ma situation préférée dans ce quiz. Aucune bonne réponse, alors qu'une seule était logique. Une seule avait quelque part
c'était
un intérêt.
C'était que des femmes ?
Mais non, c'était que ce groupe soit le premier à avoir fait ce qu'on appelle aujourd'hui du rap. Les spécialistes estiment que c'est la première fois qu'on entend des paroles plus parler que chanter. C'est donc un peu le premier groupe de rap de l'humanité. Écoutons Preacher and the Bear, le prêtre et l'ours.
Yes, yes, come on, brothers, if you want to hear a story about that preacher and the bear. Gather round, boys, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this.
Et donc, personne ne remporte ce quiz, vous avez été aussi nul l'un que l'autre. Je vous félicite.
Ça devient absolument n'importe quoi.
Oui. Bon, ça l'a
Je
toujours
vous
été.
Confirme, ça a toujours été.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et c'est un excellent choix puisqu'avec Mathieu Noël, chaque après-midi, on vous propose de vous amuser tout en vous cultivant.
Et même cet après-midi, en vous émoustillant. Comment ?
J'ai des photos de Benoît XV.
Non Stéphane, j'ai mieux. En évoquant les vénérables Vénus de l'histoire.
Oui, après la Vénus de Milo, je vais vous raconter l'histoire plus triste de Sarah Bartman, surnommée la Vénus hottentote en raison de son protubérant fessier. Une Vénus noire réduite en esclavage et en bête de foire. Et vous, c'est d'une Vénus star, la tenniswoman Vénus Williams, dont vous nous brosserez un portrait à 99% vrai, n'est-ce pas Mathieu ?
On ne peut rien vous cacher Stéphane, et puis une fois que nous aurons fait le tour des Vénus, nous verrons en quoi l'histoire peut éclairer notre quotidien avec nos merveilleux chroniqueurs, car toute l'équipe ou presque est là. Bon, Clémentine Portier-Kaltenbach a dû rentrer chez elle.
À cause d'une vieille syphilis mal soignée.
Oui, mais eux sont restés Stéphane, et c'est l'essentiel. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines des inventions qui font notre mm-hmm. quotidien. Parmi elles, le code barre.
Tout à fait.
Ça a l'air de beaucoup plaire à Stéphane.
J'adore ça.
Le barrement est très visuel.
Et totalement concomitant, vraiment, à l'évocation de ma personne.
Code barre. Non, mais,
alors vraiment.
Mais par chance, après.
Une chronique moins chiante.
Non, plus gourmande.
Plus gourmande.
Je connais votre appétit féroce, Mathieu.
Oui, bien sûr.
Avec vous savez que la pouce. Vénus de Milo n'avait pas de bras.
Oui.
Mais là, c'est un bras de Vénus.
Mais vous verrez qu'il y a peut-être une petite relation d'ailleurs entre la Vénus de Milo et cette pâtisserie dont je vais vous parler, qu'on appelle le pouce. Bras de Vénus.
Et vous allez nous apprendre à la faire, c'est compliqué
bien
la pâtisserie.
Hein. Je vais vous donner la recette. C'est pas hyper facile, mais c'est faisable.
C'est faisable. Le mot de la fin, c'est la chronique de Stéphane qui chaque jour nous révèle l'origine d'une expression française qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, Stéphane.
Oui, je tiens à vous comme à la prunelle de mes yeux.
C'est vrai ?
Non, c'est complètement faux.
Ah.
Mais c'était juste pour placer cette expression. Quelle est son origine ?
Nous le saurons en fin d'émission après avoir écouté toutes les chroniques, des moins intéressantes aux plus intéressantes. Vous l'aurez compris, mais d'abord découvrons l'histoire qui se cache derrière celle qu'on surnommait la Vénus Hottentote. Une Vénus, malheureusement, pas comme les autres.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous avez bien compris que notre héroïne, Sarah Bartman, était sujet à moquerie. Son surnom de Vénus en rapport à la déesse romaine de la beauté est un calembour des savants européens du 19e siècle. Contrairement aux Vénus Callipyges, qui ont de belles fesses, Sarah Bartman est pour eux la Vénus Stéatopyge, qui a de grosses fesses, car son tissu graisseux est très développé. Elle a aussi une macronympie, c'est-à-dire une hypertrophie des petites lèvres, une particularité physique qui fascine autant que son derrière. Vous savez, à cette époque, la différence ne passe jamais inaperçue, surtout lorsqu'on appartient à une autre race que celle des blancs dominateurs. Sarah Bartman n'est pas la première bête de foire exposée par un peuple. Les Égyptiens exhibaient déjà des nains noirs. L'Empire romain faisait défiler les barbares, tandis qu'au Moyen-Âge, on se passionnait pour les êtres difformes. Après la conquête de l'Amérique, ce sont les Indiens qu'on expose en Europe. Ramener des spécimens rares devient une véritable mode. En France, la Société des observateurs de l'homme est créée après la Révolution. Elle initie une première forme d'anthropologie qui conduit à l'observation minutieuse de l'être humain. La science et le spectacle avancent désormais main dans la main. L'arrivée de cette Vénus noire tombe à pic, probablement née en Afrique du Sud en 1789, au moment où les Français assurent que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Sarch, c'est le prénom néerlandais qui lui est donné, appartient à la tribu des Khoikhoi, à l'extrême sud de l'Afrique du Sud, surnommée de manière péjorativement les Hottentots. Elle grandit dans une ferme de la colonie du Cap, sous domination hollandaise puis britannique. À l'été 1810, elle arrive en Angleterre, sous la houlette de deux hommes, Hendrik Caesar et un chirurgien anglais du nom d'Alexander Dunlop. Ils essayent de la vendre au directeur du musée de Liverpool, qui décline la proposition. Sarah Bartman est la Vénus Hottentote. Elle est alors exposée dans un théâtre de Piccadilly à Londres. Le public, nombreux, est à la fois terrifié et amusé par ses formes exubérantes. On la regarde, on la touche, on l'examine comme un animal. N'est-ce pas ce qu'elle est pour la plupart des spectateurs ? L'anthropologie naissante, nourrie par les récits de voyageurs, évoque, en ces débuts du XIXe siècle, l'existence d'une race intermédiaire entre l'homme et l'animal. En est-elle la preuve ? Le spectacle ne fait pourtant pas l'unanimité. L'African Association intente un procès à son impresario. Caesar violerait en effet l'acte d'abolition de la traite des esclaves de 1807. Alors, la Vénus Hottentote est-elle une artiste ou une esclave ? Eh bien, coup de théâtre. Elle affirme être venue de son plein gré, être rémunérée et avoir même deux enfants noirs à son service. Elle se plaît en Angleterre et ne veut pas retourner dans son pays. L'impresario est relaxé, le show peut donc continuer. Sauf que le public ne répond plus à l'appel. Caesar l'emmène alors en province, comme à Manchester, où elle est baptisée par une église anglicane sous le nom de Sarah Bartman. Puis direction Paris, à l'été 1814, la traite et l'esclavage ayant été remis en vigueur par Napoléon, l'ambiance sera sûrement plus détendue. Effectivement, elle chante quelques chansons, elle a l'air fort gaie et plaisante avec les personnes qui vont la voir, relate une Gazette française de septembre 1814. La Vénus hottentote passe entre les mains d'un nouvel impresario, Henry Taylor, et assure le spectacle de 11h du matin à 9h du soir dans un cabaret rue Neuve des Petits Champs. La foule se presse pour l'admirer ou la moquer. C'est ensuite le montreur d'animaux Réau qui l'expose toute la journée rue Saint-Honoré. Le seul moyen pour la Vénus hottentote de s'évader, c'est l'ivresse. Alors la jeune femme sombre petit à petit dans l'alcoolisme. Les Parisiens sont intrigués par sa difformité. Y a-t-il un organe, un os en trop dans ce corps anormal ? Les scientifiques sont sur le coup. La Vénus hottentote est examinée au Jardin des Plantes par les meilleurs naturalistes, dont Geoffroy Saint-Hilaire. Il écrit dans un rapport que son visage est comparable à celui d'un orang-outan et son postérieur à celui des femelles de singes mandrilles. À 25 ans seulement, mais après avoir une vie bien remplie, la Vénus hottentote meurt à Paris en décembre 1815, certainement d'une pneumonie. Vous pensez que l'humiliation allait s'arrêter là ? Oh, elle commence à peine. Objet de divertissement, objet médiatique, Sarah Bartman devient un objet de science. Au laboratoire d'anatomie du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le père de l'anatomie comparée, Georges Cuvier, qui est chargé de la disséquer. Le cadavre est examiné sous toutes ses coutures, le corps, le sexe, les fesses, la peau et le cerveau, qu'on conservera dans un bocal. Alors, être humain ou animal ? Cuvier tranche le débat. S'il n'a jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne, il constate qu'elle n'a pas d'organes supplémentaires. Elle appartient donc à la même humanité que la race blanche, mais, et c'est un mais de taille, il la classe tout en bas de l'échelle humaine, à peine au-dessus des chimpanzés et des orang-outans. Une place que les hottentots partagent avec les Bushmen, les Pygmées, les Caraïbes et les aborigènes australiens. En effectuant ce constat, Cuvier réalise un paradoxe exceptionnel. Il est humaniste et raciste à la fois. La Vénus hottentote n'a pas fini de faire parler d'elle. Dans un article du Petit Parisien de septembre 1888, on peut lire que la Vénus hottentote a un visage abominable aux yeux d'un Européen et une croupe si volumineuse qu'elle peut servir de siège à un enfant. À croire que le journaliste l'a sous les yeux, eh bien oui. Le moulage en plâtre du corps de la Vénus hottentote est exposé au musée d'ethnographie du Trocadéro, puis dans le hall du musée de l'Homme, et cela jusqu'en 1974. Entre-temps, il faut partager la vedette avec un nombre croissant d'exhibés. D'autres Vénus, d'autres hottentots. Les visiteurs curieux sont au rendez-vous, les exposants cupides s'en mettent plein les poches, et les scientifiques avides de découvertes en profitent pour les étudier. Avec la colonisation, on assiste en Europe à l'éclosion du phénomène des zoos humains, qui prend de l'ampleur jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Expositions, cirques, foires, carnavals exhibent ces spécimens d'autres espèces qui ont en commun d'être différents des Européens. En 2002, l'Afrique du Sud, qui réclamait à la France la dépouille de Sarah Bartman, obtient gain de cause et peut l'inhumer sur sa terre natale. Deux siècles après sa mort, la Vénus hottentote rentre finalement chez elle.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour essayer de mieux comprendre encore le destin terrible de la Vénus hottentote, nous sommes avec le professeur Vincent Hugeux. Bonjour professeur.
Professeur, n'exagérons rien, journaliste avant tout.
Ah bah, professeur. J'ai décrété que vous étiez professeur. Je vous donne ce titre et c'est en direct sur Europe.
Alors Vincent Hugeux, vous êtes journaliste, professeur également, comme le rappelait
c'est ce que je disais,
à
professeur.
Sciences Po. Et vous venez de publier « Tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial » et c'est publié aux éditions Perrin. Entendre les réactions de l'époque à l'égard de la Vénus hottentote fait aujourd'hui froid dans le dos. Dans la société du 19e siècle, dans son contexte scientifique, c'était hélas tout à fait commun. Il faut se garder de tout anachronisme. Hein.
Il faut toujours déjouer le traquenard de l'anachronisme, s'abstenir de juger hier à l'aune des valeurs d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, un tel avilissement ne choque pas grand monde. Le bourgeois bien-né, l'aristo, l'ouvrier des faubourgs, il y emmène les enfants. pour contempler Sarah Bartman sans penser à mal. Et d'ailleurs, ils feront de même à l'heure des zoos humains, Z2OS évidemment, ou des expositions universelles, expositions coloniales de type Bruxelles ou Paris.
Il n'y a pas de voix qui s'élève à l'époque pour, même si c'est le fait d'une minorité, mais quelques-uns qui se disent peut-être que là, il y a quelque chose de choquant.
Il y a bien peu de voix discordantes, parce que au fond, la norme sociale et culturelle, elle est assez communément admise. Et puis, n'oublions pas que les producteurs de spectacles, qui sont pour l'essentiel mus par la vénalité, par l'appât du gain, quitte à flatter les instincts les plus troubles de leurs contemporains, et les scientifiques d'autre part, au fond, ils se font un peu la courte échelle. Ceux-ci apportant de cette manière leur caution savante à cela.
Et alors, la Vénus aux Antipodes n'était pas seulement vue comme une bête curieuse, c'était aussi une sorte de monstre sexuel, elle cumulait tous les stéréotypes coloniaux.
Le ressort sexuel est évidemment central, parce qu'il renvoie à l'interdit, au péché, donc à la transgression. Tout au long de l'histoire de l'esclavage, le négrier ou bien le contremaître de la plantation exerce sur les filles et les femmes une sorte de droit de cuissage illimité. D'ailleurs, on retrouve ces stéréotypes fantasmatiques chez Baudelaire. Exotisme, érotisme et sensualité. On les retrouve aussi chez Gainsbourg, avec sa Lola Rastaquer d'un album reggae fameux. Que dire de Josephine Baker et de sa ceinture de banane?
Est-ce que cette approche qui réduisait justement la Vénus Hottentote à un animal était la seule où il y avait dans les sciences des approches alternatives, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui auraient pu l'aider justement?
Ce qui est vrai, c'est que, et vous l'avez évoqué dans le récit, dès la fin de 1810, vous avez cette African Association qui intente ce fameux procès. Bon, en vain, comme on l'a compris. Et puis en France, vous avez un vieux débat qui oppose ce qu'on appelle les polygénistes, en gros ceux qui considèrent qu'il existe plusieurs espèces humaines, aux monogénistes, nous appartenons tous à la même grande famille. Il y a un peu du Voltaire contre Rousseau là-dedans, d'une certaine manière. Et après la dissection de Sarah, le fameux Georges Cuvier tente à se ranger dans le camp des universalistes, avec des guillemets d'Houston, évidemment. Puisque en l'absence d'os surnuméraire dans la région fessière, il considère qu'elle appartient bien au genre humain, même si, effectivement, elle en occupe l'échelon le plus bas. C'est-à-dire une thèse qui sera contestée par un scientifique américain du nom de Gliddon un peu plus tard. Mais vous savez, au fond, n'oublions pas qu'au XVIe siècle, d'éminents ecclésiastiques dissertaient doctement sur le fait de savoir si les Indiens du Nouveau Monde étaient pourvus d'une âme ou pas. On se souvient de cette fameuse controverse de Valladolid et du film formidable de Jean-Daniel Vérague avec Marielle et Trintignant.
Alors, la Vénus Hottentote a fait l'objet de films, on pense évidemment à la Vénus Noire de Kechiche, des spectacles aussi. Est-ce qu'on la trouve dans les livres d'histoire ou c'est encore un peu tabou cette histoire?
Mais pas assez. Il y a eu évidemment le film de Kechiche, il y a eu des documentaires plus ou moins romancés, des palanqués de travaux universitaires, ceux de Pascal Blanchard, de François-Xavier Fauvel par exemple, etc. Mais oui, l'enjeu il est bien celui-là. Or, en la matière manuelle scolaire, on traîne quand même une très longue frilosité, que l'on songe aux décennies de silence gêné sur la guerre d'indépendance de l'Algérie, par exemple. Que savent nos jeunes têtes blondes, ou pas d'ailleurs, des massacres de Sétif en 1945? Que savent-ils de l'écrasement de l'insurrection malgache de 1947? Que savent-ils de la guerre à huis clos menée par la France officielle dans les années 1950 contre les maquis camerounais, par exemple? Il y a beaucoup de progrès à faire sur ce registre-là.
Oui, vous qui êtes professeur justement à Sciences Po, comment vous abordez ces thématiques coloniales avec les élèves? On sent que, comment on parle des zoos humains, zoos encore une fois comme Z2OS ou de la Vénus Hottentote. Comment vous abordez le thème?
Bon, allez, je vais jouer au prof alors. J'ai intitulé un de mes ouvrages il y a quelques années, L'Afrique en face. Le corollaire de cet impératif, c'est de regarder notre histoire en face. Oui. Sans masochisme, mais sans aucune inhibition. Dire la vérité historique à nos étudiants, à nos élèves. Parce qu'au fond, là, dans le bouquin qui s'appelle donc Tyran d'Afrique, vous avez eu la gentillesse de mentionner, quand on regarde la trajectoire d'un Bokassa, d'un Idi Amin Dada, par exemple, d'un Sékou Touré, d'un Eyadema, le Togolais, au fond, tous ces gens ne sont que les rejetons, pour le coup, un peu monstrueux de l'aberration coloniale. Et en fait, pour danser le tango, si funeste soit-il, il faut être deux. C'est-à-dire qu'il y a la perpétuation d'un lien extrêmement ambigu, de dépendance, même quand vous construisez votre carrière sur la rupture avec l'ordre colonial. Et ça, on a beaucoup de mal à se libérer, à s'affranchir de cette persistance.
En tout cas, merci. On vous sent passionné sur le sujet, Vincent, pour cet éclair nécessaire. Je rappelle que votre nouveau livre, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial, eh bien, vient de paraître aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les vénérables Vénus de l'histoire. Après la Vénus de Milo et la Vénus Tantote, l'heure est venue, Mathieu, de nous brosser le portrait à 99% vrai d'une Vénus en chair et en os. La célèbre tenniswoman Venus Williams.
Oui Stéphane, en plus d'être une des plus grandes joueuses de tous les temps, Venus Williams est désormais une femme accomplie, engagée, qui milite pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Mais raconter son histoire, c'est d'abord raconter l'histoire de son père, sans qui elle n'aurait probablement pas connu ce destin de championne tant il l'a façonné depuis le berceau. Richard Williams est en effet un authentique éleveur de champions. C'est simple, dans l'histoire des grands éleveurs, il y a Richard Williams et ses filles, et Stéphane Bern et ses poules.
Oh, je peux vous dire, ce week-end, elles ont pondu. Hein, quatre boîtes de 6 œufs, elles m'ont fait.
L'un des deux a gagné plus d'argent que l'autre. Nous verrons à l'issue de cette chronique
lequel
était le meilleur business, les poules ou les tenniswomen. Une chronique où je m'engage à ne pas abuser de termes techniques propres au champ lexical complexe du tennis, un sport que Stéphane Bern connaît peu, il y a joué une fois.
En 1912.
Oui, René Lacoste, vous avez battu en 3-7. Venus Williams est donc la fille de Richard Williams. Elle voit le jour le 17 juin 80 à Linwood, en Californie. Avec sa sœur cadette Serena, elles vont dominer le tennis féminin et même le révolutionner. Et quel que soit le jugement que la pédopsychologie moderne peut porter sur le rythme d'entraînement que leur a imposé leur père, force est de reconnaître que ça a marché. Ah ça, on rigolait pas tous les jours chez les Williams. Mais on n'était pas là pour rigoler, on était là pour devenir les meilleurs. Et quand je dis « on était là », vous allez voir que c'est vraiment ontologique, si toutefois vous connaissez le sens de ce mot.
Oui.
Puisque les sœurs Williams ont été conçues avant même leur naissance pour être des championnes. Le responsable de ce beau projet, c'est donc leur papounet, Richard Williams. Nous sommes en 78, Richard n'a pas un sou en poche, il lui reste encore 72 mensualités pour rembourser sa télé couleur, et c'est justement avachi sur son canapé en train de zapper que l'idée lui vient. Il tombe en effet sur une retransmission de Roland Garros, et là, c'est le coup de foudre. Non pas pour le sport en lui-même, mais pour le montant des primes. Quand Richard apprend que la gagnante du tournoi cette année-là va empocher 40 000 $, il a l'illumination, il sait comment il va rembourser sa télé en faisant de ses enfants des champions. Tâtonne au début, il faut bien le dire, il essaye avec les enfants qui sont déjà là, c'est-à-dire ceux du mariage précédent de son épouse, mais il se révèle vraiment trop nul pour pouvoir espérer en tirer le moindre dollar, alors Richard passe au plan B. Il enfile son plus beau peignoir de satin, débarque dans la chambre de Madame Williams et lui dit
« Bébé,
j'ai envie de te faire des champions, des enfants !» Normalement, pour un papa, la grossesse consiste à lire des bouquins chiants intitulés « Devenir père en restant zen », accompagner sa femme au cours de préparation à l'accouchement et entendre beaucoup trop de fois le mot « périnée » et bien sûr prendre 10 kilos. Richard, lui, ne fait rien de tout ça, il met à profit les 9 mois pour se documenter sur le tennis et comme il n'existe à l'époque aucun manuel intitulé « Faire de ma fille une championne quitte à sacrifier sa jeunesse », il souligne rageusement des bouquins sur la force du mental dans le sport de haut niveau. Déterminé mais patient, Richard attend que Vénus sache marcher avant de lui mettre une raquette entre les mains. En revanche, dès l'âge de 4 ans, fini de rire ma cocotte, tu peux oublier trop de choupi et les barbes à papa, Richard te présente ton nouveau terrain de jeu, le barbacourt.
Voici venir les barbes.
Les barbaleçons peuvent commencer dès 6h du mat, car comme on disait dans les mines du Nord au 19e siècle, l'avenir appartient aux enfants qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, car chez les Williams, on tape dans la baballe jusqu'à la nuit tombée. Autre aspect assez terrifiant du plan élaboré par Richard, déménager avec toute sa famille à Compton, un quartier ouvrier et populaire de Los Angeles, en proie à la drogue et à la violence des gangs durant les années 80. Pourquoi ce déménagement? Eh bien pour endurcir ses championnes, Bardi. J'ai pensé que là-bas, mes filles deviendraient des femmes fortes, explique Richie, qui fait donc le pari que cet environnement hostile les aide à apprendre à gérer le stress et l'adversité qu'elles auront à affronter en jouant, je cite, « devant des blancs ». Voilà donc les Williams à Compton, banlieue chaude où les gangs contrôlent les parcs et les rares cours de tennis délabrés. Richard se bat pour un bout de bitume. Ça m'a pris 2 ans et ça a presque détruit mon corps et mon esprit, mais à cette époque, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que les cours de tennis soient à nous. Sa détermination finit par payer. Non seulement l'entraînement des filles peut continuer, mais ce sont désormais les gangs qui assurent la protection de Serena et Vénus. À mesure qu'elles grandissent, coach Richard devient plus strict. La rigueur est militaire. À 6 ans, Vénus passe 4 heures sur les cours, 7 jours sur 7. Tous les objets de la vie quotidienne sont utilisés et détournés pour parfaire l'entraînement. Une raquette cassée va se transformer en javelot pour travailler le relâchement de l'épaule et améliorer le service. Des plots, des balais, des chariots de supermarché, tout est détourné pour travailler le jeu de jambes, les réflexes et la rapidité. Feignasse, relève-toi ! Richard refuse également que les filles utilisent de nouvelles balles de tennis. Les balles usées rebondissent moins bien et les obligent à courir plus vite et à se pencher plus bas. Parfois, il éclate même des bouteilles de bière au sol pour que le terrain soit jonché de verres brisés.
C'est l'école de la vie, finalement.
Bien sûr. Un matin, Richard reçoit un coup de fil.
Françoise Dolto.
Non, ça aurait pu. Rick Machi, un coach très réputé, il propose à Richard de prendre sous son aile Vénus et Serena. Nous sommes en 91 et la famille Williams déménage en Floride. Plus de verres pilés sur le court, mais un entraînement toujours aussi intensif. À l'âge de 10 ans, le service de Vénus dépasse les 160 km à l'heure, soit la vitesse à laquelle Stéphane s'est fait flasher au volant de sa Mini Cooper S le week-end dernier.
Non.
Alors qu'il fonçait vers Tyrone Gardet au mépris du confinement.
Oui, parce que j'en ai rien à foutre.
Bah oui, mais en plus, il en est fier. Quelle honte, quel piteux exemple pour notre
mais
jeunesse,
vous êtes
Stéphane.
Trait, c'est pas vrai.
C'est vrai. Bref, Vénus manifeste des capacités hors du commun qui s'illustrent lors d'une tournée junior de l'United States Tennis Association qu'elle domine insolemment. Mais voilà que soudain, Richard arrête d'inscrire ses filles dans des tournois de tennis. En cause, le racisme dont feraient l'objet Vénus et Serena. En tribune, il a en effet entendu quelques horreurs. Il veut à tout prix préserver ses filles qui continuent donc l'entraînement, mais pas la compétition. Ce qui est totalement inédit dans le monde du tennis et rendra l'entrée sur le circuit professionnel de Vénus d'autant plus mémorable puisque c'est une jeune joueuse qui n'a participé à aucune compétition junior qui déboule et écrase tout sur son passage. On est en 94, Vénus participe au tournoi de Stanford en Californie. Elle affronte directement la 59e mondiale de l'époque. Personne ne sait comment l'adolescente va se comporter, pas même son coach en fait, hein, Rick Machi, qui redoute que la présence du public la tétanise. C'est l'inverse qui se produit. Pour sa première apparition chez les pros, Vénus Williams, grâce notamment à des services à 185 km/h, soit la vitesse à laquelle se fait flasher Stéphane quand il revient, domine Sean Stafford en 2-7, 6-3, 6-4. Petit fun fact, David, elle n'est même pas au courant qu'elle est censée s'asseoir au changement de côté, car à l'entraînement, son père lui a toujours interdit de le faire.
Eh
oui! Tout le monde était sous le choc. Qu'une jeune fille puisse arriver de nulle part sans avoir jamais joué en compétition, ni en junior, ni en université, rien que dalle, et débouler chez les pros en battant la 57e mondiale, personne n'avait jamais fait ça et personne ne le refera jamais, explique son coach admiratif. Trois ans plus tard, notre athlète a 17 ans, elle mesure 1m88 et elle est une célébrité mondiale. En 2000, elle est la première femme afro-américaine depuis Althea Gibson à remporter Wimbledon. Avec Serena, elles deviennent également les premières sœurs à gagner des doubles au plus haut niveau. Première historique, les deux sœurs vont même s'affronter en finale de plusieurs tournois du Grand Chelem. Toujours en 2000, Vénus remporte également deux médailles d'or aux JO de Sydney en simple et en double, toujours avec Serena comme partenaire. Elle continue sur la route du succès en gagnant l'US Open et finit de combler son papounet en signant un contrat de 40 millions de dollars avec Reebok. Richard respire, il peut enfin solder le crédit Sofinco de sa télé. La suite, on la connaît, des simples, des doubles, des aces. Vénus Williams est une légende, évidemment. Elle vit sur une île privée qu'elle a baptisée en hommage à notre président, probablement Jupiter Island. Richard est un papa comblé et très riche. Comme quoi, élever un champion, tout miser sur lui, c'est vraiment qui tout double. Hein. Pedro Miguel Nuno Jao Caetano Thiago Xtlopch, le père de David, peut en témoigner. Il avait élevé son fils pour qu'il devienne le nouveau Michael Jordan. Le gamin n'a jamais réussi à toucher l'arceau. Pas une fois. Foutu gâchis quand on sait qu'il l'avait entraîné à chanter l'hymne portugais en cas de victoire aux Jeux Olympiques. Il était prêt, en tout cas sur le plan de l'hymne. Résultat, David est devenu bizarre, comme tous les enfants élevés pour devenir des champions, mais sans les performances et le retour sur investissement qui va avec. À noter enfin que Vénus Williams n'en a jamais voulu à son père de l'avoir soumise à un entraînement si strict depuis son plus jeune âge. Elle dit même lui être extrêmement reconnaissante. Et ça, mon fils devrait en prendre de la graine. Cette petite ordure ingrate qui, lors de son passage dans nos studios la semaine dernière, n'a pas pu s'empêcher de tacler son propre père. Je l'ai laissé effectivement s'amuser avec le micro. J'aurais pas dû.
L'émission de mon papa, elle est trop bien. Mais bon, celui que je préfère, c'est quand même Stéphane Bert parce qu'il est plus intelligent. Hein.
Ouais, j'ai une petite idée pour ce week-end. On va trouver un terrain de tennis et puis je vais répondre un peu de verre brisé et on va jouer. Hein, on va voir si tu continues de faire ton malin. Faites des gosses, comme on m'avait dit.
Merci Mathieu. C'était à 80, allez, 18%.
Ouais, mon fils, c'était vrai, hélas.
Ah oui. Et vous m'avez quand même mis minable avec vos histoires de dépassement de... C'est pas vrai.
Vous conduisez un peu vite, c'est Nico Corrèze. Je vous ai dit, ne prenez pas la motorisation la plus puissante. Ça vous réussit pas. Vous avez tendance à être trop poussé.
Mentez.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Au vénérable Vénus succède à présent des sublimes Apollon ou des Mars.
Oui, la légende prétend d'ailleurs que pour sculpter le discobol, Miron aurait eu pour modèle Olivier Pouls avant qu'il ne découvre la moussaka. Ah. Olivier, chaque
j'ai
jour...
J'ai retrouvé le bras de Vénus.
L'histoire d'une recette. Et aujourd'hui, comme on parle des Vénus de l'histoire, vous avez choisi une pâtisserie qui s'appelle le bras de Vénus.
Ou le bras de gitan. Les deux dénominations sont acceptées dans cette belle cuisine catalane.
Le mot de la fin, ça sera avec notre ami Stéphane Bern. Stéphane, chaque jour, l'origine d'un mot ou d'une expression aujourd'hui.
Tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux.
Ah oui, la prunelle de nos yeux. Nous saurons d'où ça vient tout à l'heure. Mais tout de suite, David Castello-Lopez est là pour nous raconter l'origine de quelque chose qui fait notre quotidien, le code-barre.
Oui, en gros, le code-barre, ça fonctionne avec deux choses. D'un côté, il y a des combinaisons de barres blanches et noires, certaines qui sont fines et d'autres qui sont épaisses. Et de l'autre, il y a un laser qui est capable de regarder ces barres et de dire immédiatement à quel chiffre elles correspondent. Quand le lecteur il a fini de dire ça, il émet un son assez caractéristique que je vous propose d'écouter. Voilà, on peut le réécouter peut-être. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Et il crache immédiatement un nombre à 12 chiffres qui correspond à une seule chose sur la Terre. Par exemple, un stylo, du pain, un débardeur en strass, etc. Alors, on pourrait dire on s'en fout, hein, il y a beaucoup de gens qui le disent d'ailleurs. Mais moi, je trouve que non. Parce que les codes-barres, ça fait gagner à l'humanité quand même un temps précieux qu'on peut utiliser pour faire plein de trucs, comme par exemple passer plus de temps sur Instagram ou des choses comme ça. Et du coup, on se demande, mais qui a inventé le code-barre? En tout cas, moi, je me demande ça. Avouez qu'on se demande ça quand même.
Moi, je me suis posé la question.
Ben voilà, voyez. Et alors, pour avoir la réponse, moi, je suis allé à New York. À New York, la ville debout. Alors, je suis pas allé que pour ça. Hein. J'ai visité aussi. Et en particulier, je suis allé voir la Statue de la Liberté qui m'a inspiré une petite chanson. Hein, qui s'appelle Je suis libre. Ça dure quelques secondes. Est-ce que ça vous dit de l'écouter?
Ça me dit toujours de l'écouter.
Très bien. Alors,
c'est que parfois je vous écoute même quand on n'est pas ensemble. Le week-end, je me dis, je me fais un petit David sur Internet. Enfin, un petit David.
Je me fais un petit David. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Donc je vous propose d'écouter Je suis libre. Voilà, on y va.
Je suis libre. Je donne. Attendez. Je donne. Je donne. Je reçois.
Je suis libre.
Je donne. Je donne. Je donne. Je reçois.
Voilà, c'était un hymne à la liberté américaine.
Mais c'est magnifique.
On donne, on reçoit.
Mais c'est vous qui faites la composition musicale
bien sûr,
également.
Bien sûr,
vous avez
bien
aussi
sûr.
Ce don-là.
Oui, j'ai quelques dons. Voilà. Alors après avoir chanté Je suis libre devant la Statue de la Liberté, je suis allé voir une dame qui s'appelle Suzanne Woodland et qui n'est pas n'importe qui. On va l'entendre parce qu'elle va se présenter et je traduis ce qu'elle dit par-dessus avec une voix ultra sensuelle. Vous allez voir, c'est très agréable.
Bonjour, je m'appelle Suzanne Woodland et je suis la fille de l'homme qui a inventé les codes-barres.
Vous voyez, sa voix, elle, était sensuelle. Il m'a semblé normal de prendre une voix sensuelle également. Alors, le papa de Suzanne Woodland, c'est un monsieur qui s'appelait Joseph Woodland. Il est né en 1921, il a fait des études d'ingénieur. Et puis, un jour, il a entendu dire qu'un propriétaire de supermarché de sa région cherchait à gagner du temps pour classer ses produits. Et Joseph, il était un petit peu chaud, alors il s'est mis au travail pour trouver une idée. Et sa fille raconte la chose suivante. Elle raconte que Joseph, il s'est dit, faut que j'arrive à inventer un code, quelque chose qui puisse fonctionner comme un code pour les produits. Or, le seul code qu'il connaissait, c'était le morse. Et un jour, Joseph, il était à la plage et il réfléchissait à son problème. Il s'est assis dans le sable et un peu mécaniquement, il a planté ses doigts dans le sable et il s'est dit, c'est fou là les trous, là ça ressemble vachement à du morse quand même. Il y a des points, il y a des espaces entre les points. Et puis il a replanté ses doigts dans le sable et là il a tiré ses doigts vers lui et les points sont devenus des barres verticales et paf, il avait son idée. Alors je dis paf, hein, mais ce paf, il a quand même pris 25 ans à mûrir, puisque là on était à la fin des années 40, et en fait ce n'est que le 26 juin 1974, donc 25 ans plus tard, à 8h du matin, que le premier code-barre du monde tel qu'on le connaît a été scanné. Ça s'est passé dans une petite ville de l'Ohio qui s'appelle Troy. Alors moi je suis tellement fétichiste de l'histoire des objets que je suis allé à Troy pour filmer.
C'était
le
loin de New York.
C'était loin de New York, hein, c'est près de Cincinnati, j'ai pris l'avion si vous voulez. Pour aller dans cette ville. Et je suis allé donc à Troy et il y avait ce supermarché, le supermarché dans lequel le code-barre est, le premier code-barre existe encore.
Et il y a écrit,
et il y a une petite plaque à l'intérieur qui rappelle le moment historique et qui le valide même. Et j'ai même rencontré là-bas un caissier super sympa qui a accepté de rejouer la scène avec moi. Le premier objet qui a été scanné en 1974, c'était un paquet de chewing-gum Wrigley. Alors j'ai pris un paquet de chewing-gum Wrigley et je l'ai acheté et j'ai ressenti comme un petit frisson historique hyper agréable. Alors depuis, Joseph Woodland, il est mort,
à 91 ans, mais en 2012. Mais son invention, elle continue de cartonner, puisqu'on estime que chaque jour dans le monde, il y a 10 milliards de codes barres.
Il l'avait bien breveté, c'est toujours mon angoisse, hein, qu'il soit mort pauvre.
Il l'a breveté, il y a d'autres gens qui sont greffés pour améliorer son invention et qui eux aussi ont touché de l'argent, mais en tout cas, il n'est pas mort dans l'anonymat, ni dans la pauvreté. Alors, il est quand même possible que les jours du code barre soient un petit peu comptés aujourd'hui, parce que il y a des choses qui sont un petit peu mieux que le code barre. Il y a notamment le QR code, dont on s'est moqué pendant longtemps.
C'est un code barre amélioré.
Oui, bah, mais qui marche mieux, il y a plus de combinaisons. Ah. Et vous vous souvenez, je me souviens du moment où on se moquait du code barre, ça marchera. Qui a scanné un code barre, un QR code dans sa vie plus. Et en fait, le Covid a rendu le QR code cool, parce que il est sur les menus des restaurants maintenant. On peut l'avoir sur son téléphone sans avoir à toucher des trucs que d'autres gens vont toucher. Moi, je garde quand même une tendresse pour le code barre, en particulier à cause du bip. Je trouve que c'est un des bips les plus purs du monde. Je propose qu'on l'écoute une nouvelle fois pour finir. Avouez quand même que c'est très très beau.
Fallait créer une chanson autour du bip.
Je vais voir ce que je peux faire.
Le problème, c'est quand le code-barre ne marche pas,
ça, c'est très agaçant,
et que la dame est obligée, ou le monsieur est obligé de taper tous les numéros qui sont.
Elle a tout le monde dans la queue.
Moi, j'ai maudit le code-barre.
Mais c'est l'histoire des bouteilles de vin.
Parce que je ne pouvais plus changer les prix sur les bouteilles de vin, parce qu'avec les petites étiquettes en prix, on les enlevait, et puis que on mettait un 14,90 sur une bouteille à 150. Vous voyez, avec le code-barre, on pouvait plus.
Alors, je sais pas que
ça
concerne ce.
Chuter de manière vertigineuse le vol dans les magasins.
Mais oui, c'est vrai, quoi, c'est vrai.
En tout cas, merci David, et on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site d'Europe1.fr.
L'heure du dîner approche à grands pas, et après le dîner, il y aura un petit dessert, une pâtisserie aujourd'hui. Avec vous, Olivier Poul, chaque jour l'histoire d'une recette. Ouais. Aujourd'hui, on parlait des Vénus célèbres de l'histoire. Vous avez dégoté un dessert, une pâtisserie qui s'appelle...
Le bras de Vénus. On va voir si Stéphane va tenir jusqu'à la fin de cette chronique, sans nous faire quelques allusions dont il a le secret.
On a déjà fait au moins 17 dans l'émission.
Vous passez pour un type grégois.
Non, pas vraiment. Il faudrait vraiment qu'on se force pour faire ça.
Donc, le bras de Vénus, mon cher Stéphane, qui est une pâtisserie, une pâtisserie originaire de Catalogne, des Pyrénées-Orientales. Donc, et il doit sa création au début des années... au début du 19e siècle, à l'époque, dans cette région, il y avait énormément de gitans qui s'étaient sédentarisés. Beaucoup de ces gitans, d'ailleurs, étaient des chaudronniers, donc travaillaient le métal. Ils offraient leurs services, notamment dans les pâtisseries, boulangeries, pour tout ce qui est moule, pour tout ce qui est travail en relation avec le métal. Et on avait souvent pour coutume de les payer et puis de les remercier en leur offrant une pâtisserie assez traditionnelle qui est un gâteau roulé. Je vais y revenir dans un instant. Et on leur donnait ça, ils repartaient avec ça. Ils ont trouvé que cette pâtisserie, ce gâteau, ça ressemblait à un bras. Et comme beaucoup de gitans, on croisait beaucoup de gitans avec cette pâtisserie sous le bras, c'est le cas de le dire, on a donné ce nom de bras de gitan à cette pâtisserie. C'est le premier nom. Et puis, alors on ne sait pas très bien qui a eu l'idée, mais en plaisantant, de dire mais ça pourrait aussi être le bras de Vénus, puisque la Vénus de Milo n'en a pas, eh bien, donnons le nom de cette pâtisserie, Bras de Vénus. Alors, en 1960, il y a un pâtissier qui s'appelle Lucien Recouvreur, qui en a fait une version un petit peu plus élaborée, mais surtout qui l'a déposée aussi. Donc, c'est une pâtisserie qu'on peut encore trouver aujourd'hui quand on va en Catalogne. On peut demander un bras de gitan ou un bras de Vénus. Et on va vous donner un gâteau roulé. Alors, ça ressemble un petit peu, vous savez, les bûches que vous aviez l'habitude de faire, peut-être plus jeune, avec de la génoise et de la crème pâtissière. C'est un peu cet esprit-là.
Moi, j'aime bien ça.
Ben, moi aussi. Je trouve ça très bon. Quand c'est bien fait, c'est délicieux, avec une crème pâtissière qui est souvent aromatisée au citron et au rhum. Alors, pour réaliser cette recette qui est en fait assez simple, il y a deux techniques qu'il faut maîtriser. C'est celle de la génoise. Alors, la génoise, c'est du sucre, de la farine, un petit peu de levure, 5 œufs, alors pour 120 grammes de sucre et 120 grammes de farine, une petite gousse de vanille et puis du beurre. Bon, pour les détails de la fabrication de la génoise, allez sur le site Europe 1, je vous donnerai le pas à pas et le déroulé. Petite astuce, la génoise, on la cuit sur une plaque qui va au four, une dizaine de minutes à 200 degrés, et ensuite on la démoule sur un linge humide, vous savez. C'est ce qui va permettre en fait de la rouler sans qu'elle ne se casse. Donc il faut qu'elle garde une certaine humidité. Et à côté de ça, vous allez faire de la crème pâtissière. Alors la crème pâtissière, on a déjà donné la recette aussi, c'est 4 jaunes d'œufs, 125 grammes de sucre, 50 centilitres de lait, une gousse de vanille, un petit peu de farine ou de maïzena. Donc ce que je disais tout à l'heure, un zeste de citron et un petit trait de rhum pour l'aromatiser. On mélange les jaunes d'œufs avec le sucre, ce qu'on appelle blanchir les jaunes d'œufs. On infuse la gousse de vanille dans le lait. On vient verser le lait chaud par-dessus sur un feu très doux. On tourne jusqu'à ce qu'on ait la consistance voilà de cette crème pâtissière qui va devenir un petit peu épaisse, hein, elle va épaissir avec la coagulation des jaunes d'œufs. Et puis évidemment on rajoute le trait de citron, le zeste, un petit trait de rhum, et on va venir disposer ça sur la génoise et ensuite on le roule. Et on le décore tout simplement avec un petit peu de sucre glace. Voilà la recette d'un authentique bras de Vénus.
Merci beaucoup, mon cher Olivier Pouls. On retrouve évidemment votre recette sur le site europe1.fr. Stéphane Bern, lui, est prêt à nous livrer sa chronique.
Le mot de la fin.
Le mot de la
fin. Absolument.
Tenir à quelqu'un comme la prunelle de ses yeux.
Oui, quand on estime qu'une personne ou qu'un objet est d'une extrême valeur, on utilise l'expression « je tiens à cette chose ou à cette personne comme à la prunelle de mes yeux ».
J'imagine que c'est un rapport direct avec les yeux, avec la pupille même.
Oh, mais c'est Jean-Michel Déduction.
C'est
c'est exactement ça. Au XIIe siècle, on qualifiait la pupille de prunelle. Le diminutif, pardon, de prune. Du nom, vous savez, de cette petite prune sauvage, fruit du prunelier. Au siècle suivant, on utilisait l'expression « aimer plus que son œil ». Puis au XIVe, on disait « soigner quelque chose comme la prunelle de son œil ». Est apparue également l'expression « jouer de la prunelle ». Ça, c'est quand on faisait des œillades, faire de l'œil, si vous préférez. Ce qui compte, c'est la valeur que l'on donne aux choses. La pupille, c'est quoi? Ben, c'est la petite fille, souvent orpheline, dont il fallait qu'on s'occupe. En Tunisie, par exemple, un proverbe dit « Notu fima mouinaya », pardon pour la prononciation, qui signifie « je range ce que vous me confiez dans la prunelle de mes yeux ». Alors, comme pour dire qu'on en prendra le plus grand soin. À dire vrai, l'expression est bien plus ancienne. Témoin le livre de Zacharie datant de 600 ans avant Jésus-Christ, où le prophète annonce un Dieu de compassion en disant « Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, lui dont la gloire m'a envoyé aux nations qui vous dépouillèrent, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » C'est beau, non?
C'est superbe, surtout 600 ans avant Jésus-Christ. Et...
Finissons plutôt sur une touche moins religieuse avec Victor Hugo qui disait « Une âme peut être opérée de l'athéisme comme une prunelle de la cataracte ». Voilà de quoi méditer, non?
Sacré Victor. Historiquement vôtre, c'est fini les amis. Un numéro qui était consacré aujourd'hui aux vénérables Vénus de l'histoire, la Vénus de Milo, la Vénus Hottentote et Vénus Williams. Si on fait abstraction du fait que la première était une statue, laquelle de nos Vénus vous a le plus touché, Stéphane?
Oh, la Vénus Hottentote, parce non, que ouais, je trouve que c'est monstrueux ce qu'on faisait.
Et surtout que c'était unanime dans la société,
oui, oui.
Qu'il n'y avait
et
pas de voix pour
oui,
s'élever.
Bien sûr.
Pour,
oui, on trouvait ça normal.
Effectivement,
quoi.
Triste époque. Demain, parité oblige, il sera question de trois bonhommes, Stéphane.
Oui, qui s'en sont créés un autre. L'écrivain Romain Gary qui s'est inventé le personnage d'Émile Ajar, David Bowie qui a donné vie sur scène à Ziggy Stardust.
Et moi aussi, j'ai trouvé ma star pour demain, Terry Jeanne Bolea.
On connaît pas.
C'est normal, on ne le connaît que sous son nom de personnage. Hulk Hogan, la star mondiale du catch. Demain, ça va cogner sec, je vous préviens. Prévoyez les gants.
Il n'y a pas de gants dans le catch, non, Mathieu?
Ah oui, c'est vrai.
À demain, en tout cas, Mathieu. À demain, les amis.
À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.